Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Desureau, pour être affûté sur l'actualité.
On revient sur la crise du logement, le contexte immobilier au Québec, au Canada, à bien des endroits dans le monde qui est difficile et qui amène son lot de mythes. Hein, parce que quand on en parle, il y a certains détails, des fois qu'on interprète peut-être mal, des comparaisons qui sont boiteuses et qui nous empêchent de bien comprendre l'état de la situation. Il semble que sur bien des points concernant le contexte immobilier au pays, il y a certains mythes qui devraient être mis en évidence. Ça a été le travail d'ailleurs de l'IRIS, en fait, l'Institut de recherche et d'information. Formation socio-économique, pardon, qui a fait cette liste de certains mythes et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de mieux comprendre l'état de la situation. On en parle avec Marie-Sophie Banville, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Marie-Sophie Banville, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Desureaux.
Alors, plusieurs trucs intéressants là-dedans, parce qu'on le sait, là, on parle beaucoup du prix des maisons qui a explosé et compagnie. Et, vous expliquez certains trucs qui sont peut-être mal compris. Entre autres, l'abordabilité de Montréal. Parce qu'on compare souvent Montréal à Toronto, à Vancouver. Mais est-ce que c'est la bonne comparaison à faire?
Ben, c'est une comparaison, disons, qui va toujours nous donner un portrait très, très limité de la situation. Parce que, ce que cette comparaison-là permet pas de saisir, c'est le fait que Toronto puis Vancouver sont parmi les villes les plus inabordables au monde. Donc, c'est un peu de se dire, ah, ben, si ça va mieux à Montréal qu'à Toronto ou Vancouver, ça veut pas dire que ça va bien à Montréal parce qu'on se compare avec des dernières de classe. Puis, ça permet pas non plus de saisir la réalité qui est la suivante. Le marché immobilier canadien, dans son ensemble, est l'un des plus inabordables au monde. C'est là où le ratio, l'écart entre les revenus puis le prix de l'habitation est plus élevé dans les pays du G7. Fait que faut prendre un petit peu un pas de recul quand on essaie d'adoucir la situation québécoise en se comparant avec le reste du pays.
Je comprends parce qu'on va se comparer ici, on va se comparer toujours à Toronto, entre autres, à Vancouver, mais on va comparer des fois avec des grandes villes très populaires dans le monde. Et ça aussi, là, faire uniquement la comparaison sur le prix, c'est souvent boiteux parce qu'il faut voir le revenu moyen, les impôts et tout ça. C'est un travail qui doit être plus précis que ça.
Oui, c'est ça, tu sais, puis le prix total, le prix absolu d'une propriété, oui, c'est un indicateur de l'abordabilité, mais un autre qui est intéressant à utiliser, c'est l'indice des prix du logement. Fait que lui, ce qu'il permet de faire, c'est de calculer à chaque fois qu'une propriété se revend, à quel point ça progresse vite, ces prix-là. Puis on réalise, quand on sort ces chiffres-là, que Montréal est sur une trajectoire absolument vertigineuse. Les prix augmentent super rapidement à chaque revente. Beaucoup plus rapidement, par exemple, que dans des villes que New York, que San Francisco ou que Los Angeles. Fait que si, oui, en prix absolu, Montréal est encore plus abordable, on est sur une trajectoire, sur une pente glissante très, très rapide. Puis ça aussi, c'est important de nuancer quand on parle de la crise du logement au Québec et à Montréal.
Ouais, parce que la progression, on parle de plus de 300% en 20 ans. Les salaires ont pas fait ce bond-là, loin de là.
Les salaires ont loin d'avoir suivi, ça c'est un fait. Puis une deuxième chose qui est importante de mentionner, c'est que, bon, oui, c'est une mauvaise nouvelle pour les aspirants propriétaires, ceux qui auraient aimé s'acheter une propriété, mais c'est une super mauvaise nouvelle pour les locataires parce que quand les propriétés progressent aussi rapidement dans leur prix, ça veut quasiment dire, c'est quasiment certain que ton nouveau propriétaire, s'il veut être capable de rencontrer ses mensualités hypothécaires, il va devoir augmenter ton loyer de par beaucoup. Fait que c'est ce qu'on voit avec la crise des rénaux évictions en ce moment, les hausses abusives de loyer, etc.
Oui, il reste que ce discours-là du fait de dire « Ah, mais Montréal, c'est encore bon », ça amène des gens aussi peut-être à se mettre à la gorge, à dire « Ah, c'est vrai, il faut que j'achète, il faut ce qu'il faut, on va payer le prix parce que de toute façon, on dit que c'est moins cher à Montréal qu'ailleurs. » Est-ce que ça peut amener des gens à être poussés vers un achat qu'ils peuvent pas se permettre?
Oui, c'est sûr que ça a un effet d'accélération sur les marchés, puis ça vient jouer dans un espèce d'autre mythe qu'on parlait dans l'affiche. T'sais, on parle beaucoup qu'il faut augmenter l'offre de logement, il y a une pénurie, il faut construire plus. Mais dans un marché immobilier, il n'y a pas juste de l'offre, il y a aussi de la demande. Puis des fois, on a une tendance un peu à penser que la demande sur le marché immobilier, c'est comme un phénomène naturel. Il y a des gens, puis ils veulent acheter, puis c'est ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui façonne la demande dans un marché. Puis les effets d'emballement, les espèces de goulots d'étranglement, les sentiments qu'on est en train de manquer une opportunité, ça contribue à accélérer la demande, à la surstimuler. Puis c'est ce qu'on a vu notamment pendant la pandémie où il y a eu plein de raisons qui ont expliqué ce qui s'est passé, mais notamment un effet d'emballement.
Ouais, parce que la question, c'est effectivement le mythe numéro 2, là, d'augmenter l'offre de logement. Est-ce que c'est quand même pas une partie de la solution, mais c'est qu'on la voit comme étant peut-être l'unique solution?
C'est exactement ça. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas construire, puis qu'il faut pas construire surtout du logement abordable. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de venir nuancer, c'est si on ne se questionne jamais à savoir qu'est-ce qui façonne la demande au Canada. Qu'est-ce qui fait qu'elle est stimulée? Puis qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, elle semble s'accélérer de façon indue? Puis là, c'est là qu'on réalise que le gouvernement fédéral, notamment avec ses programmes d'accession à la propriété, contribue sans cesse à stimuler la demande, ce qui fait qu'elle est toujours en retard sur l'offre, ce qui fait que les prix montent.
Ouais, parce qu'on voyait ça. Bon, Justin Trudeau lançait, c'était dans ses promesses électorales, là, et bon, ça va entrer en vigueur pour les moins de 40 ans de pouvoir mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pour pouvoir avoir sa mise de fonds et compagnie. On se retrouve quand même, oui, à aider les gens à faire face à du trop cher, mais c'est des gens qui auraient pas, qui seraient peut-être pas allés dans le marché et qui vont contribuer à monter les prix aussi.
Exactement. C'est que le gouvernement fédéral, puis même le gouvernement du Québec aussi, puis même au niveau des îles. Quand on pense en matière d'accès à la propriété, on pense tout le temps en matière de on va stimuler la demande, on va aider les gens à épargner plus, on va baisser la mise de fonds, on ne fait que rentrer plus de gens dans le marché, alors que ça serait possible de réfléchir à l'accession à la propriété en termes d'offres. C'est-à-dire, on va construire des maisons abordables, puis on va prendre mettre des mécanismes en place pour les garder abordables. Puis c'est comme ça qu'on va, en tant que gouvernement, encadrer l'accession à la propriété au lieu de faire des mesures qui jettent de l'huile sur le feu puis qui font juste surstimuler la demande au final. C'est ce qu'on appelle une situation d'équilibre d'offre insuffisante.
Les jeunes, parce que c'est l'autre mythe, le fait que les jeunes rêvent d'accéder à la propriété, est-ce que c'est un rêve que beaucoup de jeunes sont en train tout simplement de mettre de côté ou est-ce que c'est même pas un rêve du tout pour certains?
Ben écoutez, que les gens individuellement aient un rêve ou pas, c'est pas là-dessus qu'on souhaite se prononcer aujourd'hui, c'est plutôt le fait que ce mot du rêve se retrouve dans la bouche des politiciens, des politiciennes. Puis on se dit, est-ce que c'est une affaire d'État que de réaliser, d'exaucer des rêves individuels, ou est-ce que ça devrait pas plutôt être sa job de mettre en place des politiques fiscales, des politiques de régulation des marchés qui généreraient de l'abordabilité à long terme sur le marché immobilier canadien? Fait qu'on vient un peu nuancer cette idée-là du rêve en se disant, tu sais, surtout en région, là, il y a plein de marchés où l'accès à la propriété, c'est la seule façon de se loger. Fait que quand on se met à en parler que c'est un rêve puis qu'on veut exaucer des rêves, c'est de dire, oupala, là, attendez, là. Il y a peut-être vraiment peut-être qu'on devrait sortir de ce discours-là du rêve puis vraiment mettre en place des politiques fiscales qui sont durables.
Ouais, mais c'est vrai que quand même et les jeunes, autant jeunes moins jeunes, il y a quand même une pression que dans la genre on va dire investir en immobilier, même quelqu'un un jeune que ça l'intéresse pas qui est en appartement aussi qui est bien là-dedans, il va avoir quand même une pression sociale à acheter même si ce n'est pas un rêve. Je voulais pas entrer dans ce qui est un rêve ou ce qui est pas un rêve, mais il y a quand même ça une certaine pression.
Ouais, puis tu sais, moi, je suis pas du tout dans la business de blâmer des choix individuels. Il faut reconnaître que dans les 20 dernières années, le filet social, il y a eu une érosion importante. L'idée d'une retraite pour bien des jeunes, c'est complètement abstrait. Donc, c'est normal que beaucoup de gens aient placé tous leurs œufs dans le panier de l'immobilier en se disant « ma maison, ça va être ma retraite ». Le problème, c'est qu'après ça, tu as une grosse catégorie de ta population qui a un intérêt à ce que les prix continuent à monter, ce qui crée un problème pour la génération qui s'en vient derrière. Fait qu'il faut falloir repenser un peu la façon qu'on réfléchit l'épargne, l'investissement pour la classe moyenne au Canada.
Est-ce qu'à l'IRIS, vous êtes quand même inquiet de la situation de l'économie actuelle? On a l'impression avec l'inflation là, qu'on se fait attaquer de partout, justement dans l'immobilier, dans les épiceries, l'essence. Il y a plusieurs lumières rouges en ce moment sur le tableau de bord.
Ah oui, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Puis, tu sais, quand on parle de la question du logement, oui, je sais que ça peut facilement sembler idéologique de dire, hey, le logement, c'est un droit, le logement, c'est un droit, il faut pas que ça soit une marchandise. Mais au final, on a tous besoin d'un endroit où se loger. Puis si on le fait à des niveaux d'endettement qui sont complètement délirants, ou s'il faut mettre 70-80% de notre revenu, ce qui est de plus en plus le cas pour bien des gens, c'est vraiment un problème de société important. Donc, on n'est plus juste dans un débat idéologique, on est dans une crise qui est très réelle et qui touche un nombre toujours plus grandissant de gens.
Et on voit beaucoup de parents, je comprends, qui aident les jeunes à se trouver une première propriété, mais arrivent des jeunes qui ont pas cette aide-là aussi, qui, eux, n'auront jamais accès à ça, ou du moins accès à des prix qui ont de l'allure. C'est très intéressant comme discussion. Marie-Sophie Banville, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, M.
Dessureau. Au revoir. Marie-Sophie Banville, chercheuse à l'IRIS. On parlait des bons, là. Donc, vous vous rappelez Montréal, alors qu'on dit, c'est encore abordable. L'indice des prix de logement, progression de 314% entre 2000 et 2022. Là, on comprend, c'est 20 ans, mais, fait 22 ans, mais votre salaire entre 2000 et 2022, je pense pas qu'il est monté de 300%. Par rapport, je disais 300% à Montréal, si on compare avec des grandes villes, qu'on voit comme étant des endroits où c'est pas achetable. Par exemple, San Francisco, on sait à quel point c'est impensable de s'acheter quelque chose à San Francisco. Ben eux, ça a monté de 267%, donc moins qu'à Montréal. Ils partaient de plus haut, évidemment, mais c'est une moins grande hausse. Et New York, 158% seulement. C'est presque la moitié moins de hausse en 20 ans qu'à Montréal. Alors Montréal, vraiment hausse fulgurante des prix pour ce qui est de la propriété. On peut penser que Québec, d'autres endroits, ça a été à peu près similaire. Alors, ouais, peut-être moins pire qu'ailleurs, mais moins pire que les pires de la classe, selon l'IRIS.